Allez, on va parler vélo, cyclisme avec Florent Malézieux. Salut Florent.
Bonjour Christophe.
Et belle semaine pour parler de vélo, pour parler de cyclisme, puisqu'on a un champion du monde français, Julien Alaphilippe. On l'attendait quand même, parce qu'on le savait, après toutes les péripéties du coronavirus, que ce championnat du monde était pour lui, encore plus depuis le déménagement du championnat du monde de Suisse vers l'Italie.
Ouais, alors je sais pas si c'était pour lui, mais c'est vrai qu'on avait des grandes ambitions. L'équipe de France avait de grandes ambitions à ce championnat du monde-là. On avait une très très belle équipe. On a eu un Tour de France fantastique où les Français ne s'en sont pas mal sortis, hein, Guillaume Martin, Julien Alaphilippe. Et dans la sélection française, il y avait beaucoup de ces Français qui ont brillé au Tour de France. Nance Peeters faisait partie de l'équipe aussi. Donc un gros 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 collectif pour soutenir Julien Alaphilippe qui n'a pas déçu du tout.
Ouais, et puis il faut aussi le rappeler, c'est bien qu'on parle du collectif parce que faut comprendre que le vélo, c'est aussi un sport d'équipe plus qu'un sport individuel, et là encore plus au championnat du monde. Et là, la performance de l'équipe de France était presque incroyable. Le taf, le boulot que justement Nance Peeters ou surtout Guillaume Martin ont pu faire pour ramener Julien Alaphilippe sans jamais qu'il se découvre de presque tous les championnats du monde. Bon, c'est ce qui aura peut-être manqué à Wout van Aert, par exemple. Malgré le fait qu'il ait une équipe très forte, Wout van Aert a dû travailler.
Ouais, exactement. Le collectif a été très puissant sur ces championnats du monde-là. J'écoutais ce matin une interview de Nick Schultz, qui roule pour Mitchelton Scott et qui faisait partie de la délégation australienne aux championnats du monde, qui expliquait que la réalisation télé ne faisait vraiment pas justice à la difficulté de la course. C'était une course d'attrition, c'est une course avec une élimination par l'arrière. Le tempo était très haut. Et à quelques tours de la fin, l'équipe de France s'est mise à rouler. Dès qu'ils ont commencé à rouler, il y a une centaine de participants, une centaine de coureurs qui ont été éliminés par l'arrière pour créer ces petits groupes de coureurs très forts à l'avant. Et ce qui était très intéressant quand on regarde la course, c'est que ces coureurs qui se sont isolés à l'avant, on les a vus pendant 3 semaines au Tour de France. Donc visiblement, le Tour de France les a mis dans des conditions idéales pour les championnats du monde à Imola, puisque à l'avant, on avait Primoz Roglic, on avait Wout van Aert. Des très très gros noms.
Pogacar, le tenant du titre qui a vraiment tout fait péter aussi.
Ouais, qui malheureusement a eu des petits soucis mécaniques qui l'ont un peu mis dans le dur. Donc c'est Roglic qui a représenté la Slovénie à l'avant du groupe, avec une petite discussion sur le fait est-ce que Primoz Roglic, puisqu'on savait qu'il pourrait pas, dans le groupe dans lequel il se trouvait, on savait qu'il gagnerait pas les championnats du monde, est-ce qu'il aurait dû rouler pour Wout van Aert, le Belge? Qui lui s'est sacrifié pendant 3 semaines au Tour de France pour Roglic. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe?
J'en pense que vous avez tout à fait raison, que à ce niveau-là, on le sait, il ne faut pas se voiler la face, qu'il y a quand même des alliances qui sont créées entre les pays, et que Wout van Aert et Roglic étant dans la même équipe privée, hein, les Jumbo-Visma, c'est vrai que ça aurait pu être un geste assez galant vu ce qui a été au vu du travail de Wout van Aert cet été sur le Tour de France récemment. Ça, c'est clair. On va quand même parler de Julien Alaphilippe. L'année dernière, une saison incroyable. Et bien cette année, c'est presque encore mieux. Même s'il a honnêtement moins de jours en jaune, mais il a quand même eu le maillot jaune, il a eu sa victoire d'étape, il a fait le signe au ciel pour son papa. Puis là, cette année, il repart avec une année avec un maillot arc-en-ciel. Je pense qu'on risque de le voir beaucoup, ce maillot arc-en-ciel. Déjà, ça va commencer cette semaine, hein, sur les classiques. Mais ça va être un champion qui va montrer son maillot beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Oui, exactement. Donc en fait, ce qui se passe quand vous devenez champion du monde, on vous attribue le maillot arc-en-ciel, puisqu'il y a des bandes colorées sur ce maillot, et vous avez le droit de le porter sur chacune des courses sur route que vous débutez. Et du coup, le champion du monde devient un petit peu un ambassadeur du vélo. Et tous les ans, on a envie de voir un beau sportif gagner cette course, bien évidemment, quelqu'un qui est fort sur le vélo, mais c'est aussi très important d'avoir quelqu'un qui a une personnalité positive, qui donne une très très bonne image du vélo, parce que le champion du monde, dès qu'il va dans une ville, dès qu'il va dans une course, il va être dans les médias, il va être dans les journaux, c'est à lui qu'on va aller s'adresser, etc. Et avoir Julien Alaphilippe comme ambassadeur du vélo à travers le monde pendant un an, c'est quelque chose qui est très très bien pour notre sport, parce que Julien, on l'a dit depuis quelques épisodes qu'on fait ensemble, c'est quelqu'un qui court avec son cœur, il cache pas ses émotions, on l'a vu s'effondrer en larmes après la ligne d'arrivée. J'ai lu des interviews de Patrice Lefebvre, son directeur au sein de Koenig Quickstep, qui disait que Julien n'arrêtait pas de lui demander après la course, alors t'es fier de moi, alors t'es fier de moi. Il court comme ça, Julien, il est entier. Il va à 100% sur le vélo, et puis quand il gagne, il célèbre, il est souriant, il partage la victoire avec tout le monde, et du coup il va faire ça pendant un an, Et ça, c'est formidable pour le vélo, c'est formidable pour la France également.
Puis des grosses larmes quand même sur le podium aussi par rapport à son papa. On rappelle qu'il est décédé au tout début de l'été d'ailleurs en France au mois de juin. Et donc clairement le doigt ou les doigts pointés vers le ciel, c'était pour le remercier sûrement de tout ce qu'il a pu faire son papa pour Julien Alaphilippe. On va parler du championnat du monde féminin également. Les Néerlandaises qui dominent vraiment ce sport depuis très longtemps. Pendant la retransmission, ça a été dit, 6 des 10 derniers championnats du monde féminins ont été gagnés par une Néerlandaise, et là c'est Van der Breggen qui succède à Van Vleuten.
Ouais, tout à fait. Dans le top 5, il y a trois coureuses des Pays-Bas. Leur domination est incroyable. Elle est d'autant plus incroyable que Annemiek van Vleuten, elle a eu une chute assez importante au Giro Rossa il y a 10 jours de ça. Elle s'est fracturé le poignet et malgré ça, elle a pris le départ de la course. Et malgré ça, elle finit médaille d'argent après avoir été championne du monde l'année dernière. Anna van der Breggen.
Au sprint aussi. Elle va gagner sa médaille d'argent au sprint. Elle n'est pas juste placée à cet endroit-là. Elle va gagner sa médaille d'argent au sprint.
Et elle devance des grands noms du vélo. Hein. Elisa Longo-Borghini, l'italienne. Marianne Vos, qui a été championne du monde à plusieurs reprises. Lizzie Degnan, la britannique. C'est pas n'importe qui se trouve derrière Annemiek van Vleuten. Et puis, sur la plus haute marche du podium, il y a Anna van der Breggen, championne du monde il y a 2 ans, qui a gagné le titre en contre-la-montre individuelle cette année également. Elle a fait le doublé, contre-la-montre individuelle et course en ligne.
Premier doublé depuis Jani Longo, 1995.
Je pense que ça va être... là, elle est dans une période où elle est vraiment au top. Si elle arrive à maintenir ça encore quelques mois, elle pourra peut-être aussi aller chercher le titre olympique à Tokyo.
Elle a dit que c'était son objectif et qu'elle voulait conclure la saison sur un titre olympique. L'objectif est clairement annoncé.
En tout cas, c'était une course magnifique et j'espère que nos auditeurs ont eu la chance de pouvoir regarder un petit peu à la télé. Le replay est encore disponible. Il y a des fantastiques images. Juste avant d'arriver sur le circuit d'Imola où les coureurs passaient sur une crête et on a l'impression qu'ils flottent sur la route. Il y a une image d'Anna van der Breggen qui file vers la victoire toute seule dans l'échappée. Suivi par l'hélico, qui est absolument fantastique. J'invite tout le monde à aller voir ces images. La réalisation, pour le coup, était absolument fantastique.
Absolument. Allez, si on se projette un petit peu en avant, il y a bien entendu la Flèche Wallonne qui arrive, c'est mercredi, donc d'ici presque quelques heures, hein, quand on enregistre ce podcast, avec bien entendu un Julien Alaphilippe qui montrera son maillot pour la première fois en arc-en-ciel sur la Flèche Wallonne. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout un tas de classiques qui arrivent avec aussi de grosses questions par rapport à Paris-Roubaix.
Oui, effectivement. Alors, la saison des classiques, normalement, elle se déroule au printemps. Ça se déroule dans le nord de la France et en Belgique. Donc, la première, là, ça va être la Flèche Wallonne cette semaine. Ça va être suivi de Liège-Bastogne-Liège et de l'Amstel Gold Race, puis de Gent-Wevelgem. C'est des courses où on va voir Alaphilippe avec son maillot arc-en-ciel. Alors, il y a le grand débat dans le vélo. Va-t-il avoir un cuissard blanc ? Parce que traditionnellement, le maillot arc-en-ciel, il est blanc. Est-ce qu'il va porter un cuissard blanc sur des courses boueuses, etc. ? On verra à quoi ça ressemble. En tout cas, la Flèche Wallonne, c'est un petit peu la course qui l'a révélé. Hein. Pendant plusieurs années, il a très, très bien performé sur cette course-là. Il a fini une fois deuxième derrière Alejandro Valverde. Il l'a battu la saison suivante. Donc, on va voir ce que ça donne. On l'a dit, le Tour de France, il a mis les coureurs dans des conditions assez bonnes pour les courses d'un jour. Là, ils peuvent récupérer un petit peu entre chaque course. Donc, à mon avis, ça va donner lieu à des courses assez acharnées, assez animées. Wout van Aert, qui a fini 2 fois 2e au championnat du monde cette année, qui a raté un petit peu quelques occasions. Je pense qu'il va être de retour gonflé à bloc. Donc, on va avoir des belles bagarres. Et puis, on a Paris-Roubaix qui est prévu le 25 octobre. Alors, je sais, Christophe, vous êtes impatient d'enfin voir un Paris-Roubaix sous la pluie pour rendre la course intéressante. Et malheureusement, la situation autour du Covid-19 en France devient un petit peu plus tendue actuellement. Et le préfet du Nord a déclaré hier qu'il allait rencontrer les organisateurs pour discuter des mesures autour de la course et s'assurer que la course pourrait avoir lieu ou non. Donc, on en saura plus dans les semaines à venir, une fois que les équipes de Thierry Gouvenot ont rencontré les autorités de la région Nord. Mais pour l'instant, il y a une petite épée de Damoclès au-dessus de Paris-Roubaix. Hein.
Ouais, et puis alors, peut-être encore plus si on considère que l'arrivée de Paris-Roubaix se fait dans un vélodrome et qu'il est très souvent plein et qu'il n'y aura très certainement personne à l'arrivée de Paris-Roubaix si jamais la pandémie prend la direction qu'elle est en train de prendre en France, hein, c'est clair. Merci Florent d'avoir décrypté un peu l'actu cyclisme pour nous cette semaine.
Merci Christophe.